Le PowerPoint. Et on va parler de quelque chose de particulier ce matin. La jalousie. Bien sûr, je commence immédiatement par dire que ça ne nous concerne absolument pas. À la rigueur, certaines églises parisiennes. Ah, on me dit dans l'oreillette, mais surtout pas Fireplace avec le travail exceptionnel qu'ils font. Aucun problème de jalousie. Mais au cas où, au cas où on va l'aborder, non. Je plaisante, mais bien sûr c'est un sujet dont la Bible parle et qu'il nous faut adresser. Et donc on va profiter de l'été pour réfléchir là-dessus. En petite préambule, avant l'introduction, je voudrais juste dire que ce matin, je ne vais pas parler d'une forme de jalousie qui est la jalousie selon Dieu. D'accord ? Il y a ce qu'on pourrait appeler la bonne jalousie. On peut passer la slide d'après. Il y a une jalousie de Dieu qui exprime le refus, mais le refus légitime de la part de Dieu de partager son adoration avec des idoles. Et cette jalousie-là, elle découle directement de la sainteté et de la souveraineté de Dieu. Il y a aussi la jalousie de Dieu, elle est une expression, en fait, de son amour d'alliance, on va dire alliantiel. On peut le comparer, par exemple, à deux époux. D'accord ? L'époux ou l'épouse fidèle qui désire l'exclusivité de l'amour de son époux ou de son épouse. Dieu réclame la fidélité de son peuple. L'idolâtrie est donc présentée dans l'Écriture comme un adultère spirituel. D'accord ? Bon, je dis que j'en parle pas, mais j'en parle rapidement. Voilà, ça que... Et la troisième chose qu'on peut dire sur ça, c'est que la jalousie selon Dieu, elle va viser quoi ? Le bien pour son peuple. Pourquoi ? Parce que Dieu s'oppose à tout ce qui pourrait éloigner le croyant de lui-même. Car lui seul est la source de la vie, la source de la joie et bien sûr la source du salut. Je conclue le préambule, d'accord ? On ne va pas s'attarder là-dessus, mais sachez que ça existe, mais que ça concerne essentiellement Dieu, la bonne jalousie. Peut-être nous, dans le cadre du mariage, voilà, on peut, en relation avec la jalousie d'alliance, oui, on peut être jaloux de la bonne façon. Mais la plupart du temps, on va voir que la Bible... Ce n'est pas de la bonne façon dont on l'exprime dans le cœur de l'homme. On va ouvrir Galates 5 au verset 19 et on va lire jusqu'au verset 26. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, il y a des beaux mais dans la Bible, hein. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. On a commencé. La gloire, elle est à Dieu. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Autrement dit, en nous jalousant. Dans notre texte de ce matin, je voudrais commencer par attirer notre regard sur deux mots soulignés en gras. C'est « or » et « mais ». Je fais attention parce qu'il y a un prof au fond de la salle. Or et mais. Et parfois, ces petits mots de liaison, on les met vite de côté, mais je vous invite, quand vous les lisez, à porter votre regard dessus, parce qu'ils parlent. Paul fait quoi ? Il nous montre par là qu'il y a une opposition. Il y a une opposition entre ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Et la jalousie relève d'un combat entre la chair et l'esprit. D'accord ? C'est ce qu'il aura déjà précisé, Paul, deux versets avant, au verset 17, quand il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » On revient à l'évangile. D'accord ? L'évangile plaisir n'est pas l'évangile de la Bible. Dieu nous donne du plaisir, mais Dieu ne veut pas que nous fassions ce que nous voulons. Jacques, lui, va dire, Jacques 3,15, cette sagesse, alors attention de ne pas se méprendre, c'est pas la bonne sagesse là. C'est celle qui n'est pas bonne. Sous-entendu, dans le contexte, vous le relirez, la jalousie. N'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Waouh, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. La jalousie est donc un péché enraciné dans le cœur humain, mais incompatible avec la vie selon l'esprit. Et on le verra plus tard, seule la communion avec Jésus permet d'en être progressivement délivré. Alors, on va commencer par se poser une question avant de rentrer dans le texte. C'est comment se manifeste-t-elle la jalousie ? On en a tous une petite idée, mais on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. La jalousie est souvent un péché discret. Est-ce que vous savez ça ? On ne va pas crier sur les toits, j'arrive le matin, « Oh, je suis jaloux !» En général, on va plutôt se cacher et on va ruminer ça dans notre cœur. La jalousie se manifeste de plusieurs manières. Par des paroles désagréables ou même violentes, par des actes désagréables ou parfois violents. Mais souvent, elle est tue. Elle est tue, du verbe taire. Elle est discrète à l'extérieur, mais elle habite bien dans nos cœurs. Et en faisant cela, en étant intériorisée, elle va produire des fruits, mais qui ne seront pas ceux du Saint-Esprit. Elle va produire amertume, colère, mauvaise estime de soi, pensée obsessionnelle, on va penser qu'à ça. Et donc, ça va produire quoi ? De l'anxiété. Elle peut produire un isolement, la jalousie. Pourquoi ? Ben parce que je vais rompre mes relations à cause d'elle, etc. Et tout ça, ça rejoint ce que Paul essaie d'énumérer, en fait, au verset 20, quand il parle d'inimitié, de querelle, d'animosité, de dispute, de division, d'envie. D'accord ? Tout ça, ben, ça nous parle de la jalousie et de ses fruits. Alors, comment savoir pourquoi la jalousie est installée dans nos cœurs ? Eh bien, on va regarder deux pans. On va s'intéresser rapidement au pan de la psychologie et puis on va voir ce que certains théologiens en disent. Selon la psychologie, il y a au moins cinq origines à la jalousie. La première, c'est la peur de perdre ce qui est précieux pour moi. Selon le psychologue Robert Levy, la jalousie est souvent alimentée par la peur de la perte, le sentiment d'insécurité et les comparaisons que nous faisons avec les autres. La personne jalouse ne souffre pas seulement de ce qu'elle n'a pas, mais elle craint de perdre ce qu'elle possède ou qu'elle croit posséder. La deuxième cause, c'est la comparaison. D'accord ? Sociale, ça veut dire comparaison à l'autre. Selon un psychologue, Léon Festinger, l'être humain a tendance à évaluer sa propre valeur en se comparant constamment aux autres. Je suis bien ou je suis pas bien parce que je regarde mon frère ou ma sœur. Il existe chez l'homme une tendance à évaluer ses opinions et ses capacités en les comparant à celles d'autrui. Malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce phénomène explose. Les réseaux sociaux ne servent plus à se comparer qui a les plus belles vacances, qui a acheté la plus belle voiture, qui a le plus bel objet, je ne sais pas, qui aura posté la plus belle citation, etc., qu'à se faire des amis. Vous savez, les fameux amis sur Facebook. La peur de perdre, la comparaison. En trois, une faible estime de soi. Je deviens jaloux parce que j'ai une mauvaise estime de moi-même. De nombreux psychologues observent que la jalousie est souvent liée à une image de soi trop fragile. Un psychiatre, Christophe André, a écrit « Une estime de soi fragile rend plus vulnérable aux comparaisons et à l'envie et au sentiment d'être menacé par quoi ? Par la réussite de l'autre, d'autrui. » C'est pourquoi plus une personne construit son identité sur son succès ou la reconnaissance des autres, plus elle devient vulnérable à la jalousie. La quatrième, c'est les blessures affectives. John Bowlby montre qu'une personne ayant connu dans son enfance du rejet, de l'abandon, une relation parentale instable, peut développer une peur excessive d'être remplacée ou abandonnée. Cette insécurité peut favoriser des réactions de jalousie. Et il va dire, les premières relations servent de modèle aux relations futures. D'accord ? Et enfin, le besoin de contrôle. Albert Ellis va dire que des pensées du type « je dois être le meilleur » ou alors « je dois être préféré aux autres » sont un terrain, bien sûr, favorisant la jalousie. Il va écrire « ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais les croyances que nous entretenons à leur sujet. » D'accord ? C'est ce qu'on croit dans notre cœur qui va nous rendre jaloux. Au niveau de certains théologiens, on peut citer Jean Calvin. Le cœur de l'homme est une fabrique perpétuelle d'idoles. Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Ben, il nous dit que la jalousie naît lorsque quelque chose dans notre cœur prend la place qui revient à Dieu. Que ce soit ma réussite, que ce soit être aimé ou aimé, que ce soit l'envie de pouvoir ou de reconnaissance, du moment que ça prend la place de Dieu, eh bien, ça devient une idole. Et quand je laisse ça s'installer dans mon cœur, la jalousie débarque. Augustin, Saint Augustin, lui va dire « L'envie, c'est la tristesse du bonheur d'autrui. » Pas chez les chrétiens, bien sûr. Hein. Ah mince, il était chrétien lui aussi. Saint Augustin montre que la jalousie ne consiste pas seulement à désirer un bien, mais à souffrir du bien reçu par un autre. On est tordu, Marie, je suis d'accord. Une autre citation de Timothy Keller. Les idoles ne sont pas seulement de mauvaises choses. Elles peuvent être de bonnes choses que nous transformons en choses ultimes. Je vous ai perdu ou pas ? Parfois, c'est juste des bonnes choses, mais parce qu'on en fait quelque chose d'ultime, c'est-à-dire « je veux ça absolument ». Vous savez, l'enfant qui, à Noël, veut la voiture ou je ne sais pas quoi. Et il n'y a pas d'autre option que celle-là. Si je laisse ça grandir dans mon cœur, eh bien, je laisse beaucoup de place à ce que la jalousie s'installe. Quand je fais de la reconnaissance, du succès ou de l'affection de quelqu'un une nécessité absolue pour être heureux, alors la jalousie devient inévitable. On peut mettre la slide d'après. C'est un peu petit, mais peur de perdre, la comparaison, une faible estime de soi, des blessures de l'enfance, le besoin de contrôle, mais aussi les idoles qu'on a laissées en place dans nos cœurs, la tristesse que je peux ressentir par rapport à ce que l'autre, au bonheur de l'autre, et puis les bonnes choses que je laisse devenir comme absolues dans ma vie. Ça en fait des portes d'entrée, ça, non ? On peut mettre la slide d'après. Comment la reconnaître dans nos cœurs ? Eh bien, la jalousie apparaît lorsque le succès des autres nous attriste. Est-ce que ça vous arrive ? Parfois. Lorsque les dons des autres deviennent une menace à ma réussite ou à mon bonheur. Ou alors lorsque les bénédictions des autres diminuent ma propre joie. Je me souviens avoir passé le concours de professeur des écoles avec un groupe, et puis quelqu'un l'a eu, et moi je ne l'avais pas eu la première fois. Je crois que j'étais jaloux. Je crois que j'ai eu la jalousie dans mon cœur à ce moment-là. Bien sûr, Dieu m'a fait grâce et m'a permis de me ressaisir. Mais je crois qu'il y a des situations dans la vie qui vont faire et qui vont nous rendre malheureux, en fait. Revenons à notre texte. Au verset 19, Paul dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, il y a toute la liste, et dedans il y a les jalousies. » Et il conclut ce verset en disant « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Paul établit clairement que ça n'est pas quelque chose de bon et à laisser dans nos cœurs. La jalousie, comme je l'ai mis en titre, est une œuvre de la chair. La jalousie habite dans nos cœurs qui est influencée par le péché. C'est ça, en simplifié, la chair. D'accord ? C'est nos cœurs influencés par le péché. Depuis la chute, le cœur de l'homme est attiré par le péché et recherche sa propre gloire. Il se compare, il convoite. et ils refusent la souveraineté de Dieu. La jalousie dit implicitement, Seigneur, tu n'as pas été assez bon envers moi. C'est moins fun dit comme ça, non? Tu ne m'as pas donné assez. Ou, encore mieux, elle dit, je mérite plus. Ça, c'est vrai? Non, ce n'est pas à cet évangile-là qu'on a répondu. La jalousie habite un cœur influencé par le péché. La jalousie s'oppose, voire même détruit notre communion. Dans Galates, Paul écrit à une église qui fait face à des formes de division. Et la jalousie, qu'est-ce qu'elle produit ? Rivalité, des partis pris, des conflits, de l'amertume, etc. De l'animosité, Paul va dire. La jalousie s'oppose à ce que l'esprit construit, la communion entre les membres d'une communauté. Donc elle affecte mon cœur, mais elle affecte ma communauté. D'accord ? C'est pour ça qu'elle est à prendre au sérieux. Ce n'est pas un petit péché auquel que je dois confronter quand j'ai le temps. Non, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de mal dans ma vie, dans ma famille et dans mon église. Augustin a dit « L'envie est le vice diabolique par lequel on s'attriste du bien d'autrui. » La jalousie ne souffre pas seulement de son propre malheur, mais elle souffre du bonheur des autres. Et au lieu de me réjouir avec ceux qui se réjouissent, ça c'est ce que Romains 12, verset 15 nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Vous voyez l'opposé de la jalousie. La jalousie, elle me place en situation de souffrance. Je souffre parce que l'autre est dans la joie et me pousse à rester, du coup, à distance. Elle rompt ma communion avec lui. Alors, quel remède à la jalousie ? On pourrait se dire une bonne leçon de morale. Et voilà, le tour est réglé. Eh bien non, le remède n'est pas moral, mais spirituel. Paul ne dit pas « Fais davantage d'efforts afin d'être moins jaloux. » Mais il va dire, à partir du verset 22, « Mais le fruit de l'esprit. » D'accord ? Vous rappelez l'opposition ? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. La solution est, laissons le Saint-Esprit porter son fruit dans nos vies. Comment faire ça ? Eh bien, en comprenant peut-être un peu plus certaines choses. Tout d'abord, que le croyant appartient à Jésus. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous appartenons à Jésus et nous avons été crucifiés avec lui. Nous appartenons à Jésus et nous avons été crucifiés avec lui. Verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » La victoire commence à la croix. La jalousie a été condamnée avec toutes les œuvres de la chair. Nous luttons encore, mais nous luttons comme appartenant déjà à Jésus et comme ayant déjà vaincu la jalousie par la croix de Jésus. Jean Calvin dira : la chair n'est pas détruite en un jour, mais elle est continuellement mortifiée chez les enfants de Dieu. C'est bien de lire des auteurs. On ne le met pas, celui-là, en général, dans sa cuisine ou... John Owen, un grand prédicateur aussi, a dit « Soyez occupés !» Jusque-là, ça va ? « Mais soyez occupés à faire mourir le péché, sinon le péché sera occupé à vous faire mourir. » Celui-là non plus, je n'ai même pas mis dans mes toilettes celui-là. « Soyez occupés à faire mourir le péché, sinon le péché sera occupé à vous faire mourir. » Je le dis sous le ton, pardon, de l'humour, mais c'est sérieux, c'est très sérieux. La sanctification est à la fois une déclaration légale. Nous sommes saints parce que Jésus l'a déclaré, parce que Dieu l'a déclaré. Mais c'est aussi une œuvre progressive jusqu'à l'obtention d'un nouveau corps glorifié. Parfois, la jalousie est liée à une blessure, comme nous l'avons vu précédemment, une blessure de l'enfance, une blessure liée à un événement ou un traumatisme, le Saint-Esprit peut et veut nous guérir de cela. La blessure ne doit pas rester une excuse pour continuer à pécher. D'accord ? Mais elle est l'occasion d'expérimenter la grâce de Dieu au travers de sa guérison. La blessure n'est pas une excuse pour continuer à pécher, mais elle doit être l'occasion d'expérimenter la guérison de Dieu dans notre cœur et dans nos vies. Notre communion avec Jésus, parce que nous lui appartenons, devrait nous faire réaliser que nous possédons déjà tout en lui. On peut mettre la slide d'après. Éphésiens 1, 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Nous avons déjà tout en Jésus. Par conséquent, nous n'avons plus besoin de nous comparer, plus besoin d'être jaloux. Nous avons à apprendre à nous réjouir de ce que Dieu a déjà donné. Parce que Dieu a déjà donné. Amen. Dans notre société, c'est dur ça. Hein ? On a toujours le dernier smartphone qui n'est pas sorti. On a toujours la dernière chose qu'on nous fait miroiter et qu'il nous faut absolument posséder. Mais la Bible dit « Stop !» Ouvre les yeux sur ce que Dieu a déjà donné. Et le plus grand cadeau qu'il nous a donné, c'est son Fils, Jésus-Christ. Réjouissons-nous de ça. Ça m'amène au dernier point. L'esprit produit ce que la chair ne peut produire. L'esprit produit ce que la chair ne peut produire. Le fruit de l'esprit n'est pas une liste de performances. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur du croyant. L'amour et la tempérance chassent la jalousie. Pourquoi ? Parce que l'amour cherche le bien et la réussite de l'autre avant le sien. 1 Corinthiens 13. Un autre théologien, Thomas d'Aquin, a dit « Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. » Celui-là, on pourrait le mettre. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. La joie et la fidélité remplacent la comparaison. La joie ne dépend pas d'être meilleur que mon voisin. Un prédicateur célèbre aussi, Jonathan Edwards, a dit « Le vrai saint, c'est vous, bien sûr, il parle de vous, le vrai saint trouve sa joie dans l'excellence de Dieu, plus que dans sa propre excellence. » Le vrai saint trouve sa joie dans l'excellence de Dieu. Amen. Tout est question de là où je pose mes regards. Quand Dieu devient notre trésor, la réussite des autres cesse d'être une menace. Enfin, la paix et la douceur remplacent la rivalité. Je ne suis pas en concurrence avec celui que Dieu a placé à côté de moi, mais je dois manifester douceur et paix. La douceur est soumission à Dieu et elle accepte que Dieu distribue souverainement ses dons. 1 Corinthiens 12, on connaît tous, à l'un, à un autre, à un autre, à un autre, et c'est répété 8 fois. Et au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça coupe court à la jalousie. Parce que j'accepte que Dieu donne plus à Marie qu'à moi. Parce que j'accepte que mon frère ou ma sœur va être plus doué dans certaines choses que moi. D'accord ? Parce que c'est Dieu qui a donné. Et ça, c'est valable pour les dons, mais pour les ministères, pour les responsabilités et pour les bénédictions de manière générale. Personne ne mérite les bénédictions de Dieu. C'est aussi simple que cela. Si nous les méritions, alors nous aurions peut-être des raisons d'être jaloux. Mais personne ne les mérite. Tout est donné par grâce. Tout don excellent vient d'en haut, tout don parfait. Mon frère ou ma sœur peut en apparence posséder plus que moi. Au final, je me réjouis beaucoup plus du fait que Dieu a donné. Vous voyez où je pose le regard ? Sur ce que Dieu a donné. Peu importe à qui, à moi, à elle, à lui, à elle, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est que je me réjouisse que Dieu a donné. Waouh ! Alors seulement mon cœur peut s'aligner avec celui de Job. Je sais que vous attendiez ça. Vous êtes réveillé ce matin, vous êtes dit « Ah ! Je ne suis pas encore aligné avec le cœur de Job. » Mais je crois que si on pose nos regards sur ce que Dieu donne, alors on peut s'aligner sur ce que, Job dit. Job 1, verset 21. « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Waouh ! Job, il avait compris quelque chose que je suis passé à côté peut-être. Mais je crois que si nous apprenons à poser nos regards sur ce que Dieu a donné dans nos vies, et il a donné, tu ne peux pas partir d'ici en pensant que Dieu ne t'a pas donné. Si c'est le cas, viens me voir, on va discuter. Dieu a donné. Réjouis-toi. Réjouis-toi. En conclusion, j'aurais cité des gens aujourd'hui. Spurgeon. Mais c'est parce que c'est l'été, vous allez lire, bien sûr. Il faut lire Edwards, il faut lire Spurgeon, il faut lire Calvin, il faut lire Augustin. Mais Spurgeon, vous avez plein de petites prédications sur Internet. Allez-y, c'est génial. Alors, je vous avertis, vous prenez des droites. Spurgeon, c'est un boxeur. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Et en plus, c'est traduit, donc vous avez accès en français. Spurgeon dit, « Ils ne servent pas bien le Christ, ceux qui cherchent leur propre gloire plutôt que la sienne. » Je vous ai dit, c'est un boxeur. Hein. « Ils ne servent pas bien le Christ, ceux qui cherchent leur propre gloire plutôt que la sienne, celle de Dieu. » Et l'apôtre Paul va terminer le passage en disant, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La jalousie s'installe et grandit là où l'homme cherche sa propre gloire. Le fruit de l'esprit grandit là où Jésus-Christ devient notre gloire. Je le répète. La jalousie s'installe et grandit là où l'homme recherche sa propre gloire. Mais le fruit de l'esprit grandit là où Jésus-Christ devient toute notre gloire. Amen. Je peux rappeler l'équipe de louanges et on va terminer.